portrait de femme de notre matrimoine, une émission hebdomadaire préparée chaque semaine par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour aux auditrices et aux auditeurs.
Aujourd'hui, vous allez nous parler de quelqu'un qu'on connaît bien à Digne-les-Bains.
Oui, tout à fait. Nous allons parler aujourd'hui d'une cantatrice, romancière et exploratrice féministe, bien connue à Digne-les-Bains, Alexandra David-Nel. Alexandra David-Nel, qui a vécu très longtemps la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Elle avait 32 ans en 1900, au moment de l'avènement du 20e siècle. Alors, on distingue deux périodes dans sa très longue vie. Une première période, la période des écrits de jeunesse, allant de 1898 à 1907, avant la deuxième période qui l'a fait connaître, qui a fait sa renommée comme grande exploratrice et orientaliste, celle de l'accomplissement de son extraordinaire épopée de voyage jusqu'au Tibet, de 1911 à 1925, qu'elle a raconté dans son ouvrage le plus célèbre, « Voyage d'une Parisienne à Lhasa », car elle fut la première occidentale à pénétrer dans la capitale du Tibet, alors interdite aux étrangers, en 1924. Ceci est un exploit à rendre jaloux les aventuriers hommes. Alors, fidèle à notre objectif de montrer les aspects les moins connus de la vie des femmes exceptionnelles, même quand elles sont reconnues par ailleurs, comme c'est le cas aujourd'hui, nous avons choisi de mettre l'accent sur la première période de sa vie, ses écrits et romans libertaires et son engagement féministe en particulier. Elle est née à Saint-Mandé, près de Paris, le 24 octobre 1868. Son vrai nom est Louise Eugénie Marie Alexandrine David, mais elle est connue sous le nom d'Alexandra David Nel. Nel est le nom de son mari, Philippe Nel. La prononciation correcte est Nel et non pas Nil, explique-t-elle elle-même dans une lettre à son éditeur. Son père, Louis David, est un ancien instituteur, intellectuel engagé, fervent républicain et proscrit pour cela par Louis-Napoléon Bonaparte après le coup d'État du 2 décembre 1851 et contraint à l'exil en Belgique. Enfant, Alexandra se réfugie dans les livres, notamment ceux de Jules Verne, à travers lesquels déjà elle voyageait en pensée, car elle est indépendante, rebelle, elle aspire à, entre guillemets, aller voir ailleurs. À 15 ans, d'ailleurs, elle part seule en Angleterre, puis en Suisse, puis en Italie. C'est une artiste, une grande artiste. En 1894-95, à 26 ans, elle a déjà commencé sa carrière de cantatrice d'opéra, ce qui lui permet de louer un appartement à Paris, de suivre des cours à la Sorbonne et au Collège de France, de travailler dans la bibliothèque du nouveau musée Guimet. Elle reçoit en 1889, au Conservatoire de Bruxelles, après 3 ans d'études, le premier prix de chant lyrique français, donc une artiste très douée. Pour gagner sa vie, son indépendance financière, primordiale pour elle, elle obtient des engagements dans des théâtres en France, en Europe, en Afrique du Nord, où elle se produit sous les pseudonymes de Mademoiselle de Saint-Mandé, Saint-Mandé le nom de sa ville de naissance, ou d'Alexandra Myrial. En 1893, elle fait une belle rencontre en la personne du musicien Jean Auston, qui lui fait connaître le milieu et la pensée anarchiste qu'elle adopte. Élisée Reclus, géographe de renommée internationale, savant, écrivain, poète et anarchiste, qui devint son ami fidèle jusqu'à sa mort en 1905. Elle écrit « Pour la vie », son premier ouvrage, vers 1898, puis son grand roman « Le grand art » en 1901. Ce roman relate les vicissitudes, les compromissions et la réussite finale d'une actrice lyrique, montrant là des situations très autobiographiques, des situations qu'elle a bien connues. Ce roman, malgré les démarches d'Alexandra David-Nel, n'a pu être publié, refusé par les éditeurs, certainement trop féministes, alors que Le Grand Art évoque la vie difficile de femmes artistes, comme celui d'Octave Mirbeau à la même époque raconte celle d'une femme de chambre, le journal d'une femme de chambre, et qui lui a été publié. Elle fait à Tunis la connaissance d'un ingénieur, Philippe Nel. Elle l'épouse en 1904 à l'ambassade de France à Tunis, alors même qu'elle s'est toujours positionnée contre le mariage. En effet, en août 1907, elle publie à ce sujet dans le magazine La Société Nouvelle un article énergique intitulé « Le mariage, profession pour les femmes ». Je cite « Plus fortes que les chaînes de la passion sont les chaînes obscures et pesantes de la nécessité », dit-elle, « où l'on se marie pour vivre, pour l'assurance de la nourriture et du logement ». L'homme, dit-elle encore, sait fort bien que la femme est en mauvaise posture économiquement dans la société. Il sait qu'elle a besoin de lui pour vivre. Or donc, j'affirme, c'est elle qui parle, j'affirme que tant que le mariage demeurera un métier, une carrière, un gagne-pain, toutes les prétendues conquêtes féministes en matière de législation conjugale resteront lettres mortes et sans effet sensible. Et plus loin, c'est leur affranchissement économique que les femmes doivent poursuivre. Elle écrit cela en 1907, alors qu'aujourd'hui, en 2022, les femmes, dans leur ensemble, n'ont pas vraiment acquis l'égalité des salaires avec les hommes, ni une complète indépendance économique. Alors on ne peut manquer d'admirer la grande modernité de sa pensée quand elle affirme que la dépendance économique est bien la cause du malheur des femmes, et cette revendication lui paraît plus importante encore que le droit de vote. De plus, selon elle, l'émancipation des femmes se trouve freinée par les maternités. Au congrès des femmes italiennes en 1906, elle dit « Incontestablement, la maternité est l'obstacle grave qui s'oppose à l'émancipation complète de la femme ». Donc, féministe, elle prône dès 1900 l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment le partage du désir sexuel, l'indépendance économique, ce qu'on vient de voir. Elle dénonce bien avant ce que nous vivons actuellement avec hashtag MeToo et autres, le harcèlement des hommes sur les femmes. En témoigne cet extrait d'une lettre du 12 février 1912 à Philippe Nel. Je cite « Tu ne peux te douter de quoi sont capables certains hommes dans leur haine du féminisme gagnant chaque jour du terrain. Ceux qui, dans ma jeunesse, s'efforçaient dans les couloirs étroits et les escaliers en tire-bouchon de la vieille Sorbonne de nous serrer entre les portes et le mur ou de nous faire tomber du haut des marches, ceux qui, gracieusement, enfonçaient dans la tête des jeunes filles assises devant eux les épingles de leur chapeau et leur donnaient des coups de pied quand ils se trouvaient les dominés sur un gradin supérieur de l'amphithéâtre, ceux-là ont grandi et certains ont persévéré dans le même esprit. » Avec Philippe, chacun vit sa vie, voyage de son côté, à sa guise, mais ils entretiennent une abondante correspondance. En 1906, Philippe lui fait une proposition qui va lui permettre de réaliser son rêve d'Orient, financer ses voyages, et cela va changer sa vie. Son voyage sur l'Asie, au Tibet, commence en 1911 et dure 14 ans. Elle rentre en France le 10 mai 1925 avec son fils adoptif Yongden. Son mari ne désirant pas son retour à Tunis, elle cherche un lieu propice pour s'installer. Après bien des péripéties, elle choisit la ville de Digne, située dans les Alpes du Sud, à égale distance de Nice et de Marseille. Avec beaucoup de courage, de persévérance et de travail, pour résoudre les difficultés financières, elle acquiert dans cette ville sa maison qu'elle nomme Samten Dzong, résidence de la réflexion. C'est là qu'elle est morte, dans sa chambre, à 101 ans. En 1969, ses cendres sont répandues dans le Gange en Inde. Alors, je peux ajouter en dernier lieu qu'en 2018, la ville de Digne-les-Bains a commémoré un double anniversaire, celui du 150e anniversaire de la naissance d'Alexandra David-Nel et celui de l'achat de sa maison il y avait 90 ans en 2018. Ainsi, Alexandra David-Nel a vécu la dernière partie de sa vie ici même à Digne-les-Bains, non sans avoir fait un nouveau voyage de 10 ans d'errance en Chine entre 1937 et 1946 avec son fils adoptif. Alors, quand on s'intéresse à cette femme exceptionnelle de notre matrimoine, on peut, avec profit, visiter ce lieu, la maison d'Alexandra David-Nel, son jardin, ainsi que, sur le même site, le riche musée qui lui est consacré. Dans la boutique spécifique très achalandée où sont données des conférences, des expositions par l'association qui porte son nom, l'association Alexandra David-Nel, on trouve ses livres et toutes sortes d'objets traditionnels de l'Asie en rapport avec ses voyages. Alors, je tiens à citer mes sources, et ma source essentielle, c'est le livre intitulé « Alexandra David-Nel, de l'enfant à l'icône » par Jacqueline Hirsch, conservatrice générale du patrimoine honoraire, présidente de l'association Alexandra David-Nel, et par Nadine Gomez, conservateur du patrimoine, dirigeante de la maison d'Alexandra David-Nel, édition Baroque Édition, paru en 2018, en même temps que Le Grand Art, qui n'avait pu paraître avant. Et puis un autre livre, Alexandra David-Nel, féministe et libertaire, écrit de jeunesse, aux éditions Les Nuits Rouges 2013.
Alors, l'audio qui suit est Jacqueline Hirsch, qui est donc présidente de l'association Alexandra David-Nel, qui nous a fait une petite conférence qui a été organisée par les associations Femmes Solidaires Marseille, Femmes Solidaires Digne. Et vous entendrez les petits oiseaux parce qu'on était dans le jardin de la maison Alexandra David-Nel, qui est donc un musée maintenant, à Digne, et je vous encourage à y passer. Je vous laisse écouter Jacqueline Hirsch.
Donc, elle fait ses études, en fait, d'orientaliste. Elle est très critique sur les grands professeurs qui ne sont jamais allés, qui travaillent sur les livres. Et elle, elle se disait, moi, je vais y aller pour vraiment être une véritable orientaliste. Et puis, elle s'engage, là, à Paris, elle s'engage dans le féminisme. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'elle a beaucoup, beaucoup écrit. Et puis, c'est une période, effectivement, hein, c'est une période où on est quand même là tout au début du XXe siècle, hein, et à la fin du XIXe d'abord, et au début du XXe. Elle écrit pour l'égalité entre hommes et femmes, pour l'union libre, contre le mariage, mais aussi pour l'accomplissement du désir de la femme. Ça, c'est une idée qui est très moderne. Aujourd'hui, bien sûr, ça nous parle, mais là, on est à la fin du 19e quand même. Hein. Donc, voilà, c'est, alors elle dit, ce n'est pas le nombre des individus qui est en jeu, mais leur valeur. Elle est contre parce qu'elle est contre aussi la politique nataliste du moment. Vous savez qu'il y a la revanche. La guerre de 70, on l'avait perdue. Il fallait beaucoup d'enfants, surtout des garçons, s'il vous plaît, pour la revanche. Donc, bien sûr, ça, elle est contre. Elle affirme aussi que la maternité, c'est l'obstacle grave qui s'oppose à l'émancipation complète de la femme.
On va revoir. Ça, c'est vrai. C'est toujours vrai. Ça.
Elle réfléchit aux difficultés que rencontrent les femmes qui veulent travailler et elle cherche des solutions. Je vais vous lire de ces textes, c'est assez étonnant. Alors, on lit ça dans tous ses carnets, ses correspondances, mais ses publications, mais aussi les articles de presse, puisqu'elle va écrire énormément dans la presse, qui permettent, ça permet d'approcher quand même au plus près son féminisme et savoir ce qu'elle en pense. Alors on va commencer justement par l'amour. Elle appelle ça, elle a écrit ça en 1900. C'est un texte manuscrit qui est ici dans les archives. L'amour, un champ de lutte, point d'interrogation. Alors, ce terrain, c'est un champ de lutte entre les deux sexes. Oui. Les expressions familières, mais si vous l'avez, je pense...
Non, mais il y a c'est exposé, là.
Ah, voilà.
C'est magnifique.
Les expressions familières de la langue en son foie. Oui. On dit faire une conquête, être un heureux vainqueur, se laisser vaincre, etc. Comme s'il s'agissait d'une bataille dans laquelle le mâle agresseur verrait la femelle lui céder contre son désir. Pourquoi l'axe sexuel est-il considéré comme devant répugner aux femmes qui ne se s'y soumettent que par faiblesse. Cela ne peut être que dans le cas où tel individu répugne à une telle femme, et alors cette répugnance à s'unir à lui n'est que le dégoût qu'inspire tout acte qu'on l'accomplit sans le désirer. Mais dans le cas contraire, il n'y a pas d'effet de la femme, mais victoire en l'accomplissement de son désir. Elle n'est pas en infériorité, en passivité, en soumission dans l'amour. Elle est agissante et doit être libre comme l'homme. En 1900, elle écrit ça, c'est quand même... c'est moderne.
Ah oui.
Alors ça, c'est, j'ai vu ça dans ses carnets, après son premier voyage en Inde, au Tibet, etc. Et on trouve, elle avait fait un petit lexique des mots. Et j'ai trouvé ça très, très curieux. C'est-à-dire, il y a tous les mots du sexe qu'elle a traduit en tibétain. Et en particulier, ce qui m'avait amusé, le clitoris, en tibétain, ça veut dire mot à mot langue de poule.
C'est langue de poule.
Langue de poule. Voilà, c'est ça. Alors, Alexandra a-t-elle été quand même, on peut se poser la question, une femme amoureuse? Moi, je suis persuadée que oui. D'abord, Jean Hoston, je crois que ça a été le premier et le grand amour de sa vie. Il a eu énormément d'importance pour elle et pour sa vie. Elle a écrit sur ses agendas la date où ils se sont rencontrés. Donc, au club de théosophie, elle réécrit la date tous les ans. Quand même, ça a été une période très, très importante. Après, Jean Hoston était un être assez libre. Donc, il avait eu des aventures aussi, mais ça ne gênait pas Alexandra. Et il avait eu aussi sa femme, enfin, une de ses des femmes qu'il avait aimées, attendait aussi un enfant. Donc là, elle trouvait que c'était assez logique que, qu'il prenne ses responsabilités. Donc il n'y a pas eu, comme avec Philippe, une guerre quand même ouverte assez pendant les correspondances, c'est quand même assez clair. Mais même s'il y a eu certainement au départ une histoire d'amour aussi. Mais ça c'est après c'est devenu surtout, elle l'écrit d'ailleurs, son meilleur ami, son seul et son meilleur ami. Mais avec Jean Hoston, je pense. Alors là, on va évoquer ses idées concernant le mariage. Donc elle a soif de liberté. Ses projets personnels de voyage, ses lectures, etc. Donc, elle pense que le mariage, et puis ses parents, elle disait toujours de ses parents, et elle écrit plus de 50 ans face l'un de l'autre, comme deux statues aussi étrangères que le premier jour, etc. Mais bon, ça, c'est elle qui le voit comme ça, mais bon, voilà. Elle franchira quand même le pas du mariage en 1904, et surtout pour les mauvaises raisons qu'elle expose maintenant. Mais bon, voilà, personne n'est parfait. Donc là, je vais vous lire un article qui est paru dans un magazine qui s'appelait La Société Nouvelle. Ça, c'est date de août 1907. Le mariage, profession pour femme. Que Michelet avait déjà dit. Hein. Alors, certains fervents de l'union libre ont tenté de stigmatiser d'un mot le mariage, selon le code en l'appelant prostitution légale. L'épithète est sonore, déclamatoire, elle frappe, elle choque, elle enthousiasme. Mais à mon avis, la réalité est beaucoup plus banale, plus terne, et sous un aspect moins dramatique, plus misérable peut-être que ce ne l'imaginent les inventeurs de prostitution. Plus fortes que les chaînes de la passion sont les chaînes obscures et pesantes de la nécessité. Elle ne s'est pas mariée pour aimer ou être aimée, la jeune fiancée. Elle s'est résignée pour vivre. Et malgré les trahisons, les dégoûts, révolter le cœur saignant ou résigné, l'âme morte, elle reste mariée pour vivre. Pour vivre, c'est-à-dire pour le morceau de pain, l'humble pitance quotidienne, le feu en hiver, dans le logis meilleur que la mansarde glacée, où grelotte la fille seule, l'ouvrière sans appui, livrée aux maigres ressources des chétifs salaires féminins. Pour vivre, c'est-à-dire dans la petite bourgeoisie, pour l'exemption du travail salarié, pour être, entre guillemets, dame chez soi, c'est-à-dire en remontant dans l'échelle sociale pour continuer l'existence oisive dans laquelle on l'a élevée. L'homme sait fort bien que la femme, à qui la nature a donné la mauvaise part physiologiquement, est aussi en mauvaise posture économiquement dans la société. Il sait qu'elle a besoin de lui pour vivre. Et mieux que personne, il est persuadé que le mariage est une profession. Et souvent la plus aisée, la plus lucrative des professions pour femmes. La réciproque n'est pas vraie. Comment donc s'étonner que, suivant l'équilibre naturel, l'homme n'accorde qu'à un prix élevé cette assistance qu'on lui réclame ? Ce n'est peut-être ni très généreux ni chevaleresque, mais c'est rigoureusement logique dans un monde basé sur la lutte. Et l'on ne peut vraiment exiger que tout soit des héros ou des saints. L'union libre ne laisse pas plus de liberté que le mariage légal. Les chaînes qui lient la femme le plus étroitement ne sont pas les articles des codes. On peut ruser avec la loi, la tourner en nombre de cas, mais il n'est qu'un moyen pour une mère d'apaiser les petites bouches affamées qui crient vers elle, leur donner le pain de chaque jour.
C'était la situation des femmes à l'époque, parce que les petites ouvrières à l'époque, elles gagnaient trois fois rien, elles vivaient dans des mansardes, et quelquefois elles avaient besoin d'un protecteur en plus pour pouvoir survivre.
Absolument.
On voit bien.
Le Zola, très bien.
Oui, voilà, oui, Zola raconte très bien ça.
Zola, c'est un bon ethnologue, parce qu'avant, les recherches de Zola, c'est incroyable.
Oui,
mais bien sûr,
c'est exactement ça.
Et elle dit, or j'affirme que tant que le mariage demeurera un métier, une carrière, un gagne-pain, toutes les prétendues conquêtes féministes en matière de législation conjugale resteront lettres mortes et sans effet sensible. Nous sommes à une période de transition, 1907. L'organisation de la famille, comme toute organisation sociale, évolue d'une façon rapide. Demain, elle n'a pas connu aujourd'hui. Demain, le mariage qui a déjà subi tant de transformations depuis les premiers âges de civilisation s'établira encore une fois sur de nouvelles bases. En attendant, et pour marcher vers ce but, c'est le rafranchissement économique que les femmes doivent poursuivre. Et ça, elle le dit déjà quand elle a 21 ans. Elle dit le plus important, c'est l'indépendance financière des femmes. Tant qu'on n'aura pas ça, le reste, même plus que le vote.
Oui,
le vote viendra après, comme autre chose. Mais d'abord, l'indépendance financière. Et là, je crois qu'on ne peut que lui donner raison.
C'est toujours pareil. Surtout qu'on n'y est toujours pas dans l'égalité, en tout cas, économique.
Ouais.
En fait. Il y a du progrès, quand même.
Oui, mais on n'y est toujours pas, en fait.
Oui,
ouais,
ça, c'est
pas
ça.
Du tout.
Alors, la question de l'argent, ça a toujours été, chez Alexandra, très, très important. Toujours. Mais de tout. Même quand elle est âgée, elle cultive ses légumes, elle fait. C'est toujours. Elle a l'angoisse de ne pas de manquer. Ben, tout son voyage, elle réclame des sous. Enfin, si vous avez lu la correspondance, c'est quand même assez parlant. Donc c'est son souci vraiment permanent. Alors le métier de cantatrice, évidemment, est difficile. Il lui a jamais. Elle pensait que. D'abord, vivre à Paris, ça lui est arrivé, grâce à Jean Houston, puisqu'il partageait tout. Mais elle pensait qu'elle allait gagner suffisamment d'argent pour pouvoir partir. Or, ça n'a pas été la réalité. C'était dur. Elle l'écrit dans son livre, qu'on a publié, le Grand Art.
Le Grand
Art. Oui, que parfois, ça arrivait, et assez souvent, que le directeur de la tournée partait juste l'avant-veille. Il emmenait la caisse et hop, les filles qui avaient dépensé de l'argent quand même pour se nourrir, se loger, eh bien, elles partaient, il emmenait la caisse, quoi. Ça arrivait assez souvent. Le métier de journaliste, elle est pigiste aussi, elle écrit dans plein de journaux, elle est payée, mais on ne gagne pas beaucoup sa vie, surtout à cette époque-là. Donc, ça, elle n'y arrivera pas. Après, elle écrit ses romans. Elle en écrit deux. Celui qu'on a publié en 2018, je crois. Voilà. Et un deuxième, alors ça, c'est l'histoire des artistes, des femmes de théâtre, qu'elle n'a jamais pu publier. Et pourtant, elle a vraiment fait des efforts. Elle allait sans arrêt. Elle quittait son mari. Elle était mariée à ce moment-là à Tunis. Elle le quittait. Elle disait, je vais à Paris, je vais voir des éditeurs. Elle faisait des déjeuners. Elle voyait quantité d'éditeurs. Et lui dire non. Alors qu'au même moment, Mirbeau avait écrit le journal d'une femme de chambre qui est aussi crue que celui d'Alexandra. Mais c'était un homme. Tandis qu'une femme écrire, parce qu'elle... Elle écrit « Un chat est un chat hein. », elle écrit crûment. Et ce n'était pas possible. Voilà. Donc, elle ne réussit pas. Le deuxième roman, c'est deux... Je le trouve moins fort, mais c'est quand même très intéressant. C'est deux femmes, une artiste et une scientifique, qui n'arrivent pas à s'imposer dans la société, à travailler de leur savoir-faire, parce qu'elles sont femmes. Donc, impossible, ça dure 4 ans, elle écrit ses deux romans, finalement, pour ses mauvaises raisons, et l'épouse, Philippe. Voilà. Elle écrit par exemple pour ses livres, « Je ne puis m'empêcher de songer à cette affaire de mon livre et de souhaiter qu'elle se fasse. J'aurais grand besoin de gagner une somme suffisante. Toujours. » En septembre, sur les problèmes d'argent, septembre 1906, elle est à Londres, donc elle y va beaucoup. Et là, elle rencontre hein, toutes les féministes. Et elle écrit à Philippe qu'elle a besoin de vêtements chauds. Elle n'a pas d'argent, elle ne gagne rien. De vêtements chauds. Et elle écrit « Je ne me dissimule pas que je vais faire une grosse note à Paris. Cela me vexe. J'aurai grand besoin de gagner une somme suffisante dans mon année. Ma position est très fausse. Et je n'y étais pas accoutumée, ayant toujours suffi à mes besoins. » Et là, elle philosophe sur l'argent des femmes, à partir d'une conversation qu'elle a eue avec son amie Margot, ça c'est à Londres. Et elle exprime alors des idées tout à fait modernes. Le rôle de la femme servante, à qui l'on dispense une à une des pièces de 20 francs, qui ne peut pas dépenser un sou sans qu'on le sache, est un triste rôle. Je crois qu'il faut lui attribuer la légèreté de l'argent des femmes, le peu d'intérêt qu'elles prennent aux économies communes. L'argent du mari, ce n'est pas son argent. On le dépense sans regret. On fricote comme une cuisinière sur le prix de la viande ou du beurre pour s'acheter un ruban ou un flacon de beurre. D'autres, les non-coquettes, font une tirelire secrète, leurs économies. Et c'est là le petit capital, la fortune minuscule qui leur tient à cœur. Je crois que cette dépendance et cette hypocrisie causent le malheur de plus d'un ménage. Je ne te dirai pas que j'approuve le système en sens inverse, où le mari doit quémander de l'argent de poche. Ça ne devait pas arriver très souvent. Mmh. Cela est idiot. Toutefois, il y a une nuance, que le solliciteur ayant conscience qu'après tout, l'argent est à lui et qu'il le gardera le jour où il lui plaira. Il n'est pas dans une situation aussi dépendante. Ce qu'il fait, il consent de son plein gré. Malgré ça, je hais cet espionnage mutuel. Ce que l'on gagne est à soi et on a le droit d'en disposer, sauf les restrictions que l'on s'est imposées soi-même, comme d'élever des enfants. D'où il résulte que les femmes devraient elles aussi gagner de l'argent. Ou bien que, comme le veulent certains réformistes, le travail ménager entraîne une rémunération.
Ça, on n'y est toujours pas.
Est-il juste qu'une femme qui a fait la cuisine, lavé la vaisselle, raccommodé les hardes d'un homme, s'en aille les mains vides en cas de séparation? Alors que si elle avait fait ses travaux pour des étrangers, elle aurait touché un salaire. Et que d'autre part, l'homme qu'elle a servi ainsi aurait dépensé de ce chef, s'il avait eu recours à quelqu'un d'autre, bien plus que l'entretien de sa femme. Évidemment, il y a là une grosse lacune à combler, surtout pour la classe laborieuse. Et elle écrit ça en 1906.
Cette lacune n'est toujours pas comblée.
Ouais. Exactement.
C'est du travail gratuit. Le travail
gratuit. Alors l'autre sujet, encore, c'est la maternité. Ah, oui. Donc ça, c'est un sujet très important pour Alexandra. Parce que, très jeune, elle a clamé sa volonté de ne jamais être mère. Alors, d'une part, elle l'écrit, ça. C'est l'exemple de sa mère, qu'elle n'aime vraiment pas. C'est troublant, hein, quand même, cette histoire. Donc, ça, elle ne veut surtout pas lui ressembler, donc pas l'enfant. Mais aussi, sa liberté, sa, sa volonté de partir, de voyager, donc pas d'enfant. Elle prononce en 1906 un discours devant le Congrès des femmes italiennes, qui a été publié après, dans, je crois, des journaux. Question pressante, la maternité. Alors, je vais vous le lire parce que c'est quand même... En cette lutte courageuse que les femmes soutiennent contre les injustices dont elles sont victimes au sein de la société, elles ne manquent pas d'énumérer dans les parallèles qu'elles établissent entre elles et les hommes les nombreux sujets qu'elles ont de s'estimer les égales de leurs frères. Toutes les facultés de l'esprit, toutes les aptitudes de l'organisme sont ainsi étudiées et mises en lumière. Rien de ce qui peut contribuer au prestige de notre sexe n'est laissé dans l'ombre par les habiles et dévoués avocats de notre cause. Demain, la femme joujou, la femme esclave ne sera plus qu'un souvenir. Ça va prendre du temps. Une archaïque silhouette dont les musées et l'histoire conserveront seuls le souvenir. C'est parfait. Mais nombreux sont les obstacles où se bute la femme. Nombreux les motifs qui la maintiennent assujettie. Et parmi eux, je m'empresse de le dire, la plus grande partie est fictive et doit s'évanouir devant le raisonnement. Il en est d'autres, malheureusement, fruits déplorables d'une longue évolution, difficiles à vaincre, et d'autres, enfin, inhérents à notre organisme même, impossibles à supprimer. Je veux parler aujourd'hui du plus redoutable, de celui qui est la cause initiale de l'évolution qui, à travers les siècles, a lentement développé ce type féminin, si étrangement différent du type mâle, de celui auquel il semble que nous ne puissions résigner la maternité. Alors ensuite, elle va évoquer cela sous l'angle de l'éloquence des orateurs, la plume des écrivains, les œuvres d'art et même le christianisme. La mère glorifiée s'était tombée d'un extrême à l'autre. Car la maternité ne mérite ni la gloire de l'apothéose, ni la honte des gémonies. Elle est une simple fonction physiologique dont nous n'avons lieu ni de tirer vanité, ni de nous humilier. Mais incontestablement, la maternité est l'obstacle grave qui s'oppose à l'émancipation complète de la femme. La maternité est la cause initiale qui, dans les âges lointains de la préhistoire, a attaché la femme à la caverne, à l'abri de la roche où elle veillait sur sa progéniture. C'est elle qui l'a de plus éloignée des chasses, des combats, de la vie active du mâle par crainte du péril pour les petits suspendus à son sein ou attachés à ses pas. C'est elle qui l'a fait tendre vers l'existence sédentaire plus propre à l'élevage des enfants, vers cette existence retirée pour laquelle elle a perdu sa vigueur, sa hardiesse, son égalité primitive avec son mâle, jusqu'à devenir cet être de faiblesse, tout disposé à subir le joug de l'homme. L'évolution de la mentalité féminine ne s'opérera pas sans de profondes modifications dans les mœurs de notre sexe. La femme instruite, intelligente, active, trouvera tout comme l'homme de nombreux sujets qui la retiendront, qui la passionneront. La science ou l'œuvre ou l'art, la pratique d'une profession en harmonie avec ses goûts, la direction d'affaires, les problèmes sociaux, les œuvres pratiques qui cessaient à réaliser les améliorations souhaitées. Mille choses, enfin, empliront son esprit, y tenant parfois la première place, empêchant en tout cas qu'elle voit encore dans l'amour et la maternité la direction exclusive de ses aspirations. Il n'y aurait donc qu'à nous en réjouir, nous en occuper davantage si entre cette émancipation et nous s'élevait l'obstacle, l'écueil à renverser, la maternité. Alors, elle a une solution. Et alors ça c'est moderne. Et c'est assez étonnant, mais c'est tout à fait Alexandre. L'éducation par l'État. Ce qu'il vous faut, c'est décharger des suites de la maternité toutes celles qui, pour une raison quelconque, ne peuvent ou ne veulent pas assumer la responsabilité de la charge. Ce qu'il faut à une société vraiment civilisée et consciente de ses intérêts, c'est l'éducation des enfants assistés par l'État. Non pas obligatoire, notre idéal est la liberté, mais de droit pour toutes celles et pour toutes celles qui en réclameraient le bénéfice, soit temporairement, soit jusqu'à la majorité de leurs enfants.
C'est l'école maternelle,
c'est l'école maternelle.
Mais là, c'est plus que l'école, parce que là, c'est plus que l'école. C'est la prise en charge.
C'est la prise en charge.
La prise en charge d'un enfant.
Voilà. Dans les crèches, quoi.
Elle dit même qu'il pourrait venir jusqu'à la majorité, jusqu'à ce qu'il travaille. Voilà. Elle revient encore là-dessus dans une lettre. Qui, alors ça, c'était... elle a dit ça, c'était en 1906. En 1918, elle revient encore là-dessus sur la faiblesse des femmes. Les enfants sont bien la faiblesse des femmes. Où sont les beaux faiseurs de discours sur la fragilité féminine ? L'éternel blessé de ce bon monsieur Michelet. Elle le déteste. Quelles âneries ! Comme si la... En fait, c'est un peu injuste, parce que bon, Michelet... C'est vrai. Alors, c'est... Michelet, c'est quand même... Il est né tout à la fin du XVIIIe siècle. C'est le XIXe, dans toute sa splendeur. Donc, bon, c'était aussi voilà, la culture actuelle. Mais il dit des choses sur les femmes. Il y a tout un livre que j'ai acheté qui a été... je ne sais plus, la date, c'est 1800... entre 70 et 80, quelque chose comme ça. Il y a des choses qui sont modernes quand même, hein, qui n'est pas jeté. Mais bon, c'est aussi les points. Quelles âneries ! Comme si la santé est une affaire de sexe. Est-ce que certains n'ont pas prétendu qu'une femme était incapable d'être députée à cause de ses périodes menstruelles ? Vois-tu, en dépit des Zola et consorts, je crois que la femme qui n'a pas été mère conserve une robustesse dont la plupart des autres sont privés. Bon. La maternité, tu sais, enfin, faut voir tout ce qu'elle faisait aussi, laver le linge par exemple. Nous, on a la machine à laver.
Élever un enfant, c'était quand même pas rien, hein, parce que tout se faisait à la main.
Absolument.
Et puis les femmes, il y a les femmes qui travaillaient. Elles travaillaient jusqu'au dernier jour de leur grossesse, certaines.
Et
elles reprenaient aussitôt.
Ouais. Surtout les agricultrices.
Oui.
Donc la maternité est une fonction naturelle. Elle ne devrait logiquement pas entraîner de maladie ou d'accident. Mais l'expérience montre qu'il n'en est pas ainsi et que les grossesses démolissent les femmes. Ce que je me félicite de ma sagesse. Le monde n'est pas si beau que l'on puisse désirer créer des êtres pour les y placer.
Mais oui, parce qu'à l'époque, il y avait quand même... il n'y avait pas de contraception, il y avait des femmes qui avaient beaucoup d'enfants,
des grossesses successives. Elles se débrouillaient quand même.
Il faut
très, très
se rendre
bien.
Compte, hein, oui. Moi je me rappelle.
J'ai trouvé sur les. Je me suis dit, mais comment elles faisaient Et ben, sur ces petits carnets, elles marquent ses règles et elles comptent. Alors la méthode
Ogino,
que ça n'a pas toujours réussi.
Ah oui, oui, oui.
Il y a
oui.
des enfants Ogino.
Oui, oui, il y a plein d'enfants Ogino.
Ça a quand même aidé les femmes.
Oui.
Surtout les femmes qui étaient plutôt bien réunies.
Voilà, c'est ça.
Et ben, ça, c'était quand même.
Oui.
Voilà. Et elle faisait ça parce que sinon, elle n'aurait pas noté ça sur ses
cartes.
Alors, c'est un autre sujet, mais que j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que, hélas, on peut entendre ça encore de nos jours. Les femmes qui réussissent sont victimes parfois des hommes, et c'est encore le cas. Et donc ça, je trouve que ça démontre encore une fois la modernité d'Alexandra Daninelle comme féministe. Hein. Et c'est un extrait d'une lettre qui m'a vraiment étonnée. Philippe lui avait envoyé, parce qu'il lui envoyait des coupures de presse. Elle se tenait vraiment au courant de tout ce qui se passait. En plus, elle avait, ça dépend où elle était, hein, mais quand elle était proche d'une ville, elle allait voir les Anglais, qui avaient des journaux, donc elle lisait très très bien l'anglais, elle le parlait très bien aussi. Donc elle était vraiment au courant de ce qui se passait. Puis Philippe lui envoyait des petites coupures de presse. Et là, il lui envoie une coupure de presse sur l'affaire de Marie Curie. Alors, j'ai cherché parce que je ne comprenais pas au départ ce qui se passait. Marie Curie avait été à un moment, comme elle devait être présidée de l'Institut, une femme. Donc, ils imaginaient les hommes, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour qu'elle ne fasse pas. Et ils ont. Alors, un journaliste a fait ça, dit qu'elle avait un amant.
Gilles
Nobel.
Comme si elle n'avait pas d'autres chats fêtés. Elle qui travaillait presque 24 ans sur 24. Et elle, Donc, il lui envoie ça. Elle était à ce moment-là, en 12, elle était à Calcutta, quand elle reçoit ça. Elle réécrit à Philippe en parlant de Curie. Elle peut fort bien avoir été victime d'une machination. Tu ne vis pas dans ces milieux. Tu ne peux pas te douter de quoi sont capables certains hommes dans leur haine du féminisme gagnant chaque jour. Ceux qui, dans ma jeunesse, s'efforçaient dans les couloirs étroits et les escaliers en tire-bouchon de la vieille Sorbonne de nous serrer entre les portes et les murs ou de nous faire tomber du haut des marches, qui, gracieusement, enfonçaient dans la tête des jeunes filles dans les amphithéâtres, assises devant nous, dans la tête des jeunes filles assises devant eux, les épingles de leurs chapeaux, et leur donner des coups de pied quand ils se trouvaient les dominer dans un gradin supérieur de l'amphithéâtre. Ceux-là ont grandi et certains ont persévéré dans le même esprit. Est-ce que la police n'a pas dû plusieurs fois, en ce temps-là, charger, protéger des étudiantes en médecine qu'on avait gentiment commencé à assommer à coups de pied de banc? Tu as peut-être toi-même entendu parler de ces choses dans ta jeunesse. Et peut-être as-tu trouvé drôle et réjouissante cette façon de traiter des femmes pas riches qui avaient l'impudente audace de vouloir demander leur gagne-pain à autre chose qu'à leur sexe. Il y en a, et j'en connais à Paris, qui n'auraient pas hésité à déshonorer, puisque déshonneur il y a, Madame Curie, pour l'empêcher d'être à l'Institut.
C'est quand même un beau témoignage.
Intelligente comme elle est, c'est sûr qu'elle s'est dit, bien sûr, tout ce qu'elle a vécu quand elle allait faire ses études à la Sorbonne, elle a vécu ces choses-là. Oui, oui, oui. Parce que les femmes, il n'y a pas longtemps qu'elles franchissaient ça. Voilà. Et en conclusion, je vais vous lire un article, j'espère que ce n'est pas trop long ce que je vous raconte j'ai essayé de résumer quand même. Un article d'Alexandra Myriel qui est paru dans La Fronde. Alors, elle a beaucoup écrit, vous savez, La Fronde, c'est le journal de Marguerite Durand. Un journal qui était écrit uniquement par les femmes, un journal quotidien. C'est quand même assez
étonnant,
parce qu'il y en avait d'autres.
Écrits, typographiés.
Il y a une bibliothèque Marguerite Durand, et je me promets quand on va pouvoir un peu...
Elle a été menacée, cette bibliothèque, Marguerite Durand.
Ah, elle a failli.
Elle a failli disparaître.
Et on a tous envoyé...
une pétition pour ça.
Oui, bien sûr.
Mais c'était quand, ça? Qu'elle a failli disparaître.
Il y a deux ou trois ans.
Toutes les féministes se sont mobilisées pour qu'elle.
Oui, c'est ça. Et je me souviens, une pétition qui a circulé, on a tous signé, parce que c'est une très belle bibliothèque féministe. Et alors, c'est vraiment. Alors, on en trouve beaucoup de ces journaux, La Fronde. On en trouve. Alors, ils n'ont pas une collection complète, mais alors, le SIG, recommande, de la BNF qui s'appelle Gallica. Ils ont mis énormément de, et c'est en très bonne qualité, de documents scannés. Et on trouve, alors ils n'ont pas tous les numéros, mais il y en a quand même beaucoup. Et c'est vraiment, c'est une mine d'or de pouvoir lire ces journaux-là. Voilà. Alors, donc c'est un article qui est paru en 1902, dans le 15 août exactement, dans La France. Et c'est la conclusion de cet article. La science va tuer les morales vieillies. Mais oui, tant mieux. Ne cherchons ni à le nier, ni à l'empêcher. On n'arrête pas l'inévitable évolution des êtres et des choses. Et d'ailleurs, ne pouvons-nous pas espérer, à la place de leurs vertus stériles et pénibles, l'établissement d'une solidarité rationnelle plus féconde en bonheur pour tous. Laissons se lamenter les ressasseurs de rengaine. Nos lampes électriques sont préférables aux chandelles de nos grands-pères. En dépit de tous les sophismes, la liberté l'emporte sur l'esclavage. La vérité vaut mieux que l'erreur. Elle a signé Alexandra Myriel, l'un de ses pseudonymes. Et moi, je trouve que c'est cette vérité-là qu'Alexandra a tout le temps recherchée toute sa vie.
Presque en utopiste.
Oui, en utopiste, mais on sent toute l'importance que ça a dû bousculer aussi, mais il faut du temps. On le sait. Il faut encore du temps pour que tout ça.
Nous, on est là pour continuer son travail.
Voilà.
Merci.
Merci beaucoup. Merci. Merci.
Merci.
Très contente.
Super.
Merci.
Est-ce qu'elle a parlé quelque part de la loi du 1905?